Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode des visites radiophoniques un peu spéciales puisque l'introduction, vous l'entendez, ne se passe pas sur le terrain mais bien dans nos studios. Par contre, comme à notre habitude, autour de la table, on retrouve nos deux présentatrices vedettes de l'émission, Nelly Lafont du Pays d'Art et d'Histoire. Salut Nelly, comment ça va ?
Salut, ça va très bien.
Et puis Caroline Entraigue du Conseil d'Urbanisme, d'Architecture et de l'Environnement. Salut Caro.
Salut Thomas.
Alors justement, Nelly, pour nous, est-ce que tu peux un peu nous expliquer cette introduction d'émission un peu inédite ?
Oui, c'est un peu particulier. En fait, on ne va pas t'amener où on avait prévu initialement parce qu'on a une très belle actualité qu'on voulait partager avec nos auditeurs aujourd'hui. Donc, on va t'emmener prendre de la hauteur au pied du Mont Lozère, découvrir un édifice qu'on a déjà fait visiter dans le cadre des visites radiophoniques en 2019, c'était il y a 6 ans. Et pourquoi ce monument ? Ben parce que c'est d'abord un monument auquel on a un très très fort attachement, Caroline et moi, parce que c'est un monument sur lequel on a travaillé dès le début de notre collaboration entre le Pays d'Art et d'Histoire et le CAUE. On a eu la chance d'échanger avec son architecte, et ça c'est très précieux pour nous. On a fait des expositions de photographie, on lui a construit un clocher éphémère, on l'a reconstruit en bonbon pour le manger. Nous avons fait des concerts, des visites, des spectacles avec d'autres partenaires. Bref, c'est une grande histoire d'amour avec ce monument, hein, Caro. Et donc, aujourd'hui, on t'amène, je ne sais pas si tu l'as deviné, Thomas, mais on t'amène visiter la chapelle du Mont Lozère.
Et alors, donc, pourquoi on va réécouter cet épisode de 2019 ? C'est qu'il a deux grandes actualités, on va dire.
Ben oui, alors... Je vais de suite spoiler la grande actualité, comme ça ce sera dit. Du coup, la chapelle vient d'être labellisée architecture contemporaine remarquable depuis la commission régionale qui s'occupe de cette labellisation le 17 février 2026. Donc cette labellisation vient d'un grand travail qui avait été mené dès 2014 avec un recensement un peu de l'architecture contemporaine remarquable en Lozère, avec notamment, bien sûr, Nelly du Pays d'Art et d'Histoire, l'UDAP, les architectes des bâtiments de France, le conseil départemental. Et dans cet inventaire, il y avait 25 projets qui ont été présentés la première fois en commission technique en 2024. 4 dossiers avaient été retenus pour cette fameuse commission régionale, qui était le village vacances de Saint-Germain-de-Calbert, la maison Mono à Sainte-Croix-Vallée-Française, le Mille Club de Châteauneuf de Randon et notre fameuse chapelle, qui a été du coup labellisée à l'unanimité. On parle dans la visite du classement monument historique, on perd toujours pas l'espoir, mais pour être labellisé monument historique, il nous faut un propriétaire. Et ça, l'actualité n'a pas changé. Maintenant, c'est le conseil départemental qui a un peu repris ce travail autour du propriétaire du sol de la chapelle. Et il y a urgence, puisque du coup, on a toute une réfection de toiture à reprendre, puisque le bâtiment s'abîme.
Et puis justement, cette chapelle du Mont Lozère qu'on pourra retrouver dans un guide maintenant.
Exactement. Donc la maison de l'architecture Occitanie a lancé une résidence d'architecture qui a eu lieu l'été dernier, donc l'été 2025, et qui a donné lieu du coup à un guide de balade architecturale contemporaine et moderne en Lozère qui va sortir là fin juin.
Et puis donc ce tout nouveau classement patrimoniaux de la chapelle du Mont-Lozère, classé donc architecture contemporaine remarquable, c'est justement remarquable parce qu'en Lozère, ça fait partie de l'un des deux sites avec le Mille Club de Châteauneuf de Randon. Et sinon, autre actualité qui justifie également pour nous cette rediffusion de l'épisode enregistré il y a maintenant 6 ans, c'est la fête de la transhumance avec cette année l'année internationale du parcours et des éleveurs pastoraux. Parce que voilà, comme chaque habitude, cette année c'est le 21 juin, il y aura encore des milliers de brebis qui vont monter sur le Mont Lozère. Comme chaque année, à 10h30, il y aura la célébration œcuménique, donc des prières dans la chapelle. Ça, c'est vraiment la tradition pour bénir les troupeaux de la part des bergers et des bergères. Mais par contre, à 15h, ça, il n'y avait pas les années précédentes. C'est un concert exceptionnel au cœur de la chapelle, nommé le Souffle du Berger. C'est un événement, donc, comme j'ai déjà dit, qui s'inscrit dans cette année internationale du pastoralisme. Et c'est donc l'ensemble La Chapelle Harmonique qui jouera ce concert. Un programme entre musique savante et populaire, avec justement des reprises de mélodies gravées dans le folklore des bergers et des bergères, également interprétées avec des instruments spécifiques du répertoire, comme les clarines, musettes ou sonnailles. Et peut-être que le nom de l'ensemble, La Chapelle Harmonique, vous dit rien, mais c'est vraiment un orchestre de renom en France pour ce qui est de la musique baroque. Il est notamment dirigé par Valentin Tourné, jeune chef d'orchestre d'à peine 30 ans, mais lui aussi, il est célèbre dans son domaine, notamment reconnu mondialement pour être un prodige de la viole de gambe. Voilà, on a un peu donné toute l'actualité de cette chapelle en 2026. On a été déjà très long sur cette première partie en studio. Je pense que vous avez hâte d'écouter cette émission où on se rend en direct du Mont-Lozère et de cette chapelle. À l'émission, à l'époque, c'est pas moi que vous allez entendre, c'était mon collègue Ludovic Terrol, mais on va retrouver Caroline et Nelly. Et à l'époque, ça va changer, il y avait encore de la neige et des skieurs autour de vous. Donc on peut souhaiter une bonne écoute à nos auditeurs et auditrices.
Bonne écoute.
Bonne écoute.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafon.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lotte en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.
Allez, suspense insoutenable, on est à la station du Mont-Lozère. On va aller récupérer la clé de la chapelle, c'est ça Nelly ?
C'est ça, on va te faire visiter aujourd'hui la chapelle du Mont-Lozère, qui est une chapelle très particulière qu'on aime beaucoup.
Voilà, avec la station de ski qui est ouverte, quelques skieurs, hein. Un peu de neige encore, hein, mais bon, plus trop. Nous, on n'aura pas le temps d'aller skier par contre. Hein.
Non. Bonjour.
Bonjour.
Hop, bonjour.
Bonjour. Je suis Nelly Lafon, je vous ai appelé pour qu'on récupère la clé, la chapelle.
Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Super. Merci beaucoup.
Merci. On remet la capuche.
Ouais, peut-être un peu mieux.
Allez, à tout à l'heure, merci. Si jamais je tombe de transi de froid et de fatigue, vous me laissez là. Hein. Oui, tant pis, hein. Pensez à survivre.
Ouais. C'est la première règle de survie. Il faut d'abord penser à se sauver soi-même pour pouvoir sauver les autres après.
Ouais. En plus, là, au pire, il y a un skieur qui peut passer et me récupérer. C'est jamais. Ouais. Il y a un peu de brouillard.
Donc nous sommes sur le site de la chapelle du Mont-Lozère, en plein mois de février. Donc il fait un petit peu froid, on voit des skieurs. Donc derrière nous, on voit le site aménagé de la station du Mont-Lozère, avec le site de l'UCPA, les différents restaurants, le parking, donc la partie très construite de la station. Et devant nous, donc la chapelle du Mont-Lozère, une forme triangle dans la brume aujourd'hui, entouré de neige, qui a vraiment une forme très particulière qui va marquer ce paysage du Mont-Lozère. Cette chapelle a été construite en 1967 par des scouts. Elle a été terminée en 1969, donc elle est antérieure à l'aménagement notamment du site de l'UCPA. Et dans les aménagements plus récents, donc c'est le site de la salle Orsac et les aménagements faits pour le ski alpin, voilà, qui n'étaient pas présents forcément à l'époque de la construction.
D'accord, c'est assez récent, 1967.
Oui. C'est d'ailleurs dans le secteur et même en Lozère, hein, c'est une des chapelles les plus récentes qu'on ait.
et qui a une voilà, un point de vue architectural, on va en reparler quand on sera à l'intérieur, une forme très très caractéristique. Et surtout voilà, on est à la station de ski du Mont-Lozère. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a une chapelle, que c'est une chapelle, et peut-être voilà, c'est ce manque d'infos est dû à sa forme qui est vraiment particulière. Ce qu'on peut rajouter par rapport à ce qu'a dit Caroline, c'est que la station de ski du Mont-Lozère a été aménagée dans les années 60, on va dire, et la chapelle est peut-être le dernier aménagement de ce secteur, fin 67, quoi.
Hormis la salle Orsac. En chapelle récemment construite, on a donc la chapelle du Mont-Lozère et la chapelle de la Garde, qui est à la Blaré Sainte-Marie, dans le nord Lozère. Voilà, c'est les deux chapelles d'après 1950 hein, qu'on est réellement sur la Lozère. Attention aux skieurs.
Bonjour. Bonjour.
Donc là, on monte vers la chapelle qu'on distingue à peine entre les arbres et le brouillard. Donc cette chapelle, elle a une histoire très particulière qui est intimement liée à celle des scouts. En fait, puisque elle a été construite, enfin en tout cas le début de sa construction est lancé lors d'un grand rassemblement, festival scout qui a réuni ici sur le Mont-Lozère plus de 6000 pionniers. Alors attention, jamais 6000 pionniers en même temps ici, hein. Voilà, des pionniers qui venaient donc de toute la France, mais pas que, Allemagne et Angleterre aussi.
Il faut savoir qu'ils avaient fait un chantier scout un petit peu avant, l'année précédente, à Concoule dans le Gard. Donc c'est vraiment le début des... On appelait ça construire pour la paix. L'idée, c'était de construire, de réaliser quelque chose pour les habitants à l'époque du scoutisme.
En fait, c'est lié à une réforme dans la pédagogie scout qui va être initiée dans les années 50-60 où le jeune scout devient vraiment architecte de son temps, maçon et qui construit en fait... pour le monde de demain.
D'accord, et donc en combien de temps ils ont construit tous ces scouts ?
Alors, en réalité, ils sont venus un été, donc juillet-août, sur 2 mois. Ils ont construit les murs, et la chapelle a été véritablement terminée en 69. Voilà. Bon, on vous dira un peu plus tout à l'heure.
Ça y est, on est arrivé, on est coupé du vent là.
Et oui, exactement, en fait on est protégé par la façade, l'unique façade du bâtiment, puisque le bâtiment n'a qu'une seule façade en pierre. C'est cette façade côté nord qui nous abrite du vent qui vient forcément de la crête hein, du Mont-Lozère. Et là on est vraiment à l'abri sur ce côté là. Alors à l'origine, on dit que l'architecte a dessiné les plans en une nuit, que le terrain a été choisi en 8 jours. Donc tout s'est fait vraiment précipitamment. Et
en réalité ?
En réalité un petit peu moins. Voilà, on va dire que c'est un bâtiment qui est très complexe. Je pense pas que l'architecte ait pu concevoir tout ça en une seule nuit. Par contre pour le terrain c'est fortement possible. Ça s'est fait un peu sous forme de patch. Et il s'avère qu'aujourd'hui on sait pas vraiment qui sont les propriétaires des terrains sur lesquels sont construits la chapelle.
En fait, ce qu'on sait, c'est que quand le mouvement scout a décidé de lancer ce chantier de construction, il cherchait un terrain et très vite, l'idée du Mont-Lozère est apparue aux dirigeants scouts, mais au niveau national, parce qu'ils connaissaient le secteur du fait d'être à Concoule, quelques temps auparavant. Et donc très vite, en fait, toutes les démarches ont été entreprises avec les représentants locaux du mouvement scout et puis l'évêché, construction d'une chapelle, donc évêché aussi comme interlocuteur. Et donc très vite, un architecte a été choisi et c'est Jean Paytavin, qui était alors architecte départemental, qui a été choisi pour dessiner cette chapelle. Et ça, c'est très très important. Caroline va nous expliquer, parce que voilà, la chapelle, peut-être que voilà, c'est difficile à imaginer, mais c'est un triangle en fait. Quand on la découvre, c'est vraiment un triangle isocèle. Et c'est une construction qui marque vraiment ce site de manière très forte.
Il faut imaginer qu'à l'époque, on avait moins de végétation. On était vraiment sur une crête du Mont Lozère qui était vraiment un paysage nu. Hein. C'était un crâne chauve, on l'appelait. Hein. Et donc, cette chapelle avec cette forme triangle était vraiment une volonté architecturale forte. C'était un bâtiment fortement visible. On n'avait pas l'aménagement de la salle Orsac et de la station de ski de fond, de ski alpin, pardon, sur la partie gauche. Donc, on avait vraiment uniquement un paysage nu de pâturage et ce triangle, vraiment une forme géométrique forte dans ce paysage.
Et c'est cette forme triangulaire, enfin c'est de cette forme triangulaire que naît un peu le mythe, en tout cas qui nous plonge, en tout cas l'histoire de la chapelle du Mont-Lozère nous plonge entre mythe et réalité, parce que voilà, cette forme triangulaire a fait beaucoup parler, a fait beaucoup écrire et beaucoup d'interprétations ont été données et encore aujourd'hui.
Comme par exemple.
Alors, par exemple, peut-être, point de vue architectural, Caroline, tu peux davantage en parler.
Oui, donc le triangle, c'est assez intéressant. On va le voir quand on sera à l'intérieur. Mais l'architecte a voulu faire de ce bâtiment un abri, une tente, un refuge. Voilà, c'est vraiment le terme. On le voit ici, on est vraiment à l'abri du vent. L'idée, c'est de pouvoir, dans ce milieu naturel très rude, pouvoir avoir un lieu d'abri aussi bien physique que spirituel, c'est un peu l'idée. Ensuite, il y a une autre imaginaire, qui est l'imaginaire des scouts. Pour eux, ben forcément, c'est une tente scout, c'est la tente canadienne avec son petit piquet au milieu et les deux bords en toile de tente. C'est l'imaginaire, la manière dont s'est approprié ce projet les scouts. Et l'autre histoire qui est un peu plus historique, un peu plus en lien avec le lieu, c'est la question de l'œcuménisme, de la Trinité, donc qui est le symbole vraiment entre les protestants et les catholiques. On est ici sur la frontière vraiment des guerres de religion, donc c'est aussi intéressant de le voir sur ce point de vue-là, mais peut-être Nelly pourra le préciser.
On a d'autres chapelles qui sont connues sous cette forme-là, Caroline, en Lozère ou ailleurs?
Non, la forme triangulaire sur la partie chapelle n'est pas forcément représentée dans l'architecture contemporaine. Après, ce que l'on va voir à l'intérieur, c'est vraiment cette volonté de transcendance, c'est-à-dire de s'élever vers le ciel. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs chapelles. Par exemple, la cathédrale de Brasilia, au Brésil, on a la même volonté d'avoir ce sentiment de transcendance, de monter vers le ciel. On le retrouve aussi dans les cathédrales gothiques. Par exemple, la cathédrale de Mende, vous voyez, il y a une très grande hauteur sous plafond qui amène justement à cette transcendance, à cette montée vers le ciel. Voilà. C'est vraiment un sentiment qui est ici représenté en architecture contemporaine.
Ok. On va essayer de déneiger la porte d'entrée ou on fait encore le tour ?
Non, on va pas faire le tour, on va essayer de rentrer. La seule chose qu'on peut peut-être ajouter sur la façade, c'est qu'on est ici une fois de plus en du schiste. Donc cette pierre qui est quand même très sombre, ferrugineuse et qui est très très présente, puisqu'on a là une fois de plus sur la façade très peu d'ouverture. On a deux lancettes de vitraux qui marquent cette verticalité, cette recherche de la transcendance comme on vient de le dire, et qu'on va retrouver davantage à l'intérieur avec le jeu des lumières.
Et ce qu'on peut voir, c'est que la maçonnerie est plutôt très mal réalisée. Hein. On a du schiste mal rangé, des joints en béton assez grossier. Donc on voit vraiment que le travail de maçonnerie a été fait là par les scouts, par des gens qui n'étaient pas professionnels. Voilà. Et on va voir que ça a montré aussi un petit peu ses limites. Voilà. Donc ce qui est intéressant de voir, ici on est à l'extérieur, et donc l'idée c'est de pouvoir aussi proposer des messes et des cérémonies religieuses à l'extérieur. Donc on est ici sur un dallage un petit peu surélevé du sol, qui est en légère pente, et qui permettait ici d'envisager des offices à l'extérieur. Et on retrouve sur la façade, entre les deux lancettes, une croix qui est insérée dans le mur en pierre, vraiment un trou dans la maçonnerie. Donc c'était vraiment l'idée de pouvoir faire des cérémonies à l'extérieur. Donc nous voilà dans la chapelle. On voit bien ici la nécessité de l'abri, hein, puisqu'on était vraiment au froid dehors. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le toit descend à 100%. Donc on a un effacement des murs, hein, sur les côtés. Et à l'intérieur, du coup, ça donne une charpente très complexe, qui est assez belle, assez magnifique, qui a vraiment été réalisée là par des professionnels, parce que pour concevoir une telle charpente, il faut quand même avoir de bonnes expériences. Voilà. Et on voit deux murs intérieurs, eux aussi en schiste, construits par les scouts, mais certainement remontés une fois le chantier terminé. Et face à nous, on est un petit peu éblouis par ces deux lancettes qui ont une couleur un petit peu or, ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément à voir la personne qui va faire l'office religieux. On est vraiment un petit peu à contre-jour, ce qui est assez intéressant et qui pousse un petit peu à l'abstraction du lieu, quoi.
Peut-être on peut revenir un peu sur le déroulé du chantier. Le début de la construction débute en juillet 67 avec les scouts qui vont être vite limités en fait par leurs compétences. Les scouts ne sont pas maçons, ne sont pas charpentiers, donc très vite ils vont être stoppés par rapport à ça. Et donc c'est l'évêché qui va prendre la suite du chantier en faisant appel à des entreprises professionnelles du bâtiment. Ce qu'on sait, c'est que, et puis on a retrouvé des témoignages, hein, de jeunes scouts qui nous racontent que les pierres proviennent de la carrière du Tournel, qu'ils ont été les chercher en camion, en brouette, dans le lit du Lot notamment. On sait aussi que, par exemple, les lozes du toit, parce que voilà, on a dit que la façade est en schiste, mais le toit aussi est en schiste, donc c'est 100% pierre. Que les lozes du toit proviennent de la chapelle Saint-Privat de Mende, donc ça permettait de faire des économies. Et puis après, voilà, des entreprises locales qui vont apporter leur aide de manière soit bénévole ou soit professionnelle pour le dallage, notamment pour cette fameuse charpente qui, comme le disait Caro, est très très particulière et très présente aussi à l'intérieur, puisqu'on a une pente quasi à 100%. Et donc la chapelle va être terminée quasiment donc à l'été 69.
Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de ce grand rassemblement scout, on faisait pas que de la maçonnerie, ce qu'on appelait le point soleil, on avait des chants, de la danse,
des activités extérieures comme la spéléo.
On n'est pas venu faire que construire la chapelle, c'était vraiment un petit moment dans la journée, mais le reste des journées était dédié à d'autres activités de loisirs.
Redis-nous quelles activités de loisirs?
Spéléo, canoë, escalade, et puis après effectivement, comme le disait Caroline, de la danse et du chant. Et là, voilà, peut-être que tu pourras
danser, chanter.
Mais oui, puisque on sait, il y a des chants qui ont été écrits spécialement lors de ce festival, de ce chantier scout qu'on a retrouvé avec Caroline.
Même un CD complet, imaginé sur le site, avec l'un des chants les plus emblématiques qui est sur la colline.
C'est assez symétrique, cette construction, même quand on est à l'intérieur.
En fait, c'est véritablement un jeu de volumétrie, ce bâtiment. On a fait le jeu avec des enfants. En fait, dans le plan, on retrouve 9 triangles. Donc la figure du triangle est aussi bien en façade, donc c'est-à-dire deux faces, mais aussi sur le plan, donc à plat, mais également sur les côtés. Voilà. Donc c'est vraiment un plan très complexe, assez mathématique. On voit les murs ici qui reprennent la forme du triangle, donc on voit un triangle sur le côté, un autre triangle sur le côté, et ce triangle se répète à toutes les échelles du bâtiment.
Caille au creux de mes peines, l'enfer est un lit où reposer mes veines, troué au hasard, au rythme de mes plaintes, j'ai castré le vide, construit le labyrinthe. Ah, où est la magie des dents qui blanchissent quand je bois le jaune des cœurs qui pourrissent? Moi je
Aiguille.
dans ma vie. Et j'ai broyé le noir trop fort de génie. Tout ça dans ma mémoire. Et j'ai creusé les trous tellement profonds que l'on voit.
Peut-être sur l'architecte qui était lausérien.
Oui, donc Jean Pétavin, c'est un architecte lausérien qui a été architecte départemental. Il a travaillé au sein du conseil général à l'époque, conseil départemental maintenant, pendant 30 à 40 ans. Il a construit plusieurs bâtiments. Un bâtiment qui ressemble un petit peu à la chapelle du Mont-Lozère, qui est l'hôtel du col de Montmirat, si vous le visualisez, qui est assez intéressant. On a également ce toit à 100% et cette forme triangulaire sur la façade. L'hôtel de Montmirat a été conçu avant la chapelle du Mont-Lozère, peut-être ça peut être intéressant de le souligner. Il avait également construit un petit chalet qui a été détruit par les flammes juste à l'entrée de la chapelle du Mont-Lozère. D'autres bâtiments, l'école de la Coustarade à Marvejols. On peut également trouver le collège, le lycée Pétavin du nom de son père. Voilà, donc c'est un architecte qui a énormément construit en Lozère et qui est décédé en 2016.
Qu'on a eu la chance de rencontrer, du coup, avec qui on a pu échanger sur l'histoire de cette chapelle et sur vraiment ce qu'il a voulu faire avec cette construction, puisqu'il a lui revendique vraiment la paternité de la forme de la chapelle qu'il a voulu faire comme un refuge. Et il nous a effectivement beaucoup parlé de ce chalet qu'il avait construit. Donc un chalet, c'est un refuge de montagne. Et cette idée de vraiment s'ancrer dans le paysage et dans le secteur avec ce schiste qui est quand même très très présent entre le toit et cette façade monumentale. Alors, quand on parle aussi de la forme de la chapelle, quand on interroge les différents interlocuteurs, évidemment pour l'évêché et pour qui aussi se considère un peu comme le père de ce monument, c'est la Trinité. Le triangle symboliserait la Trinité, ce fameux symbole fort dont parlait Caro tout à l'heure, entre les catholiques et les protestants. Et c'est vrai que cette chapelle a reçu quand même de nombreux mariages œcuméniques entre catholiques et protestants et du coup est connue de cette population locale parce que c'est un lieu fort, hein, c'est un lien fort. Donc Trinité, refuge ou tente, parce que quand on interroge les dirigeants nationaux scouts, c'est la tente scout. Donc voilà, chacun y voit un peu ce qu'il veut, mais ça montre que chacun s'est approprié ce bâtiment.
Oui, c'est vrai qu'on interroge même les habitants hein, de la commune. C'est vrai que pour eux, c'est leur chapelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont fait don des terrains pour construire la chapelle. Donc, cette chapelle appartient à tout le monde. La légende aussi disait que les habitants ont participé à la construction de la chapelle. On n'a pas retrouvé de traces, mais c'est forcément possible également. Et donc, c'est vraiment un bâtiment qui a été approprié par plein de personnes et ce qui en fait vraiment sa qualité aussi bien architecturale que humaine quoi, et historique.
Oui, et puis le fait que ce soit une histoire récente aussi fait mélanger l'histoire avec le ressenti de chacun et avec les souvenirs aussi de chacun, évidemment, là-dedans. Alors on peut peut-être aussi ajouter un mot sur les vitraux, sur le maître verrier qui a fait les vitraux, donc c'était monsieur Balin. Qui avait déjà travaillé en Lozère dans d'autres églises et qui a, lui aussi, à travers les vitraux, avait beaucoup échangé avec Jean Pétavin à l'époque sur la, sur la symbolique, à donner aux vitraux les couleurs. Donc on a des échanges qui montrent que ben, voilà, ils n'étaient pas toujours d'accord. Mais là, voilà, les deux lancettes qu'on a sur la façade symbolisent la marche du peuple dans le désert. C'est pour ça qu'on a donc cette idée de monter, d'avancer, donc de marche, de mouvement en tout cas, puisque ça donc conduit le regard vers le haut, et ces couleurs très très
très voilà, chaudes, jaunes,
voilà, ocre, marron, voilà.
C'est sur 10 mètres à peu près, hein.
Ouais. Oui, ouais, c'est assez impressionnant. Ouais.
Et on en retrouve aussi, il y a des petits ouais, on retrouve encore des triangles, des petits vitraux, mais des pièces uniques.
Oui, c'est des sortes de pierres, en fait, de rochers, de verre, qui reprennent les couleurs qu'on a dans les autres vitraux, donc toujours du ocre, du vert, on a du bleu aussi. Et ça, c'est très, très particulier. Et on le retrouve qu'ici, ce petit jeu de couleurs dans la maçonnerie, ces pointes de couleurs qu'on voit petit à petit. Et donc, au-dessus de la porte d'entrée qu'on a passée, on a donc un vitrail qui représente la Trinité avec trois couleurs, donc le rouge, le jaune et le bleu.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on est là aussi sur des vitraux très contemporains. On n'est pas sur quelque chose de figuratif. On ne voit pas des personnes en train de marcher dans le désert. Mais les couleurs chaudes nous rappellent du coup la teinte un petit peu du désert, du Sahara. Et les formes, voilà, nous amènent à cette levée, à cette marche. Donc c'est vraiment aussi des vitraux très contemporains, au même titre que la chapelle.
Voilà, qui éclaire vraiment ce qu'on a dit, hein, d'une couleur chaude. En arrivée, il y avait de la brume, pas forcément beaucoup de lumière à l'extérieur. Et c'est vrai que ça éclaire beaucoup à l'intérieur. C'est magnifique, hein, à l'intérieur. On voit deux arcades aussi de chaque côté de l'hôtel, hein, en schiste toujours. Et cette charpente qui va jusqu'au sol. Hein,
et puis, on a beaucoup moins froid.
Il y en a beaucoup moins froid. On peut entendre peut-être le... Enfin, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais on entend des fois le vent qui vient taper contre la paroi de cette chapelle.
Ces grands murs de Rofan, Ludo, que tu indiquais, en fait, ils servent vraiment à tenir le poids de cette unique façade avec les vitraux qui sont assez très lourds. Donc, c'est des murs de Rofan, voilà, sur lesquels vient se poser la charpente et qui permettent vraiment de maintenir cette façade qui fait voilà 9 mètres de haut par quasiment 18 mètres de large.
C'est une chapelle qui est fermée, on a dû aller chercher la clé, elle est ouverte l'été peut-être, comment ça se passe?
Alors elle est régulièrement ouverte l'été, sinon il ne faut pas hésiter à demander la clé au restaurant Le Refuge en fait, pour ceux qui souhaitent la visiter. Après des concerts, des visites sont organisées assez régulièrement. Et puis là, surtout au point de vue de l'actualité, donc il y a toute une démarche qui est entreprise par la commune du Mas-d'Orcières pour savoir qui est propriétaire de cette chapelle. Vraiment, en tout cas, la commune souhaite vraiment être propriétaire de cette chapelle pour pouvoir entreprendre des travaux de restauration, parce que voilà, on voit que la chapelle, elle vieillit, elle n'est pas très bien entretenue du fait de ce vide en fait juridique sur la propriété. Et du coup, voilà, souhaite vraiment pouvoir la mettre en valeur. Et puis nous, de notre côté, avec le CAUE, on engage des démarches pour faire inscrire au titre des monuments historiques cette chapelle qui est vraiment vraiment caractéristique d'une époque. Au-delà de la Lozère, mais ça sera possible une fois que le problème de propriété sera réglé.
Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un bâtiment contemporain, mais qui parle vraiment de la Lozère, parce que bon, on a le schiste qui est vraiment prédominant. C'est ce qu'on appelle un peu une architecture contemporaine, mais régionaliste, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle du lieu dans lequel elle est. Elle parle du schiste, elle parle de cette histoire de scouts, elle parle de cette histoire des habitants qui ont donné leur terrain. Enfin, voilà, c'est au-delà de l'architecture, c'est vraiment cette histoire atypique qui mérite un classement particulier.
Je crois qu'on a bien fait le tour. Le petit plus pour Brillant Société, maintenant qu'on a tout dit, de quoi on n'a pas parlé?
Bah alors, est-ce que tu as remarqué quelque chose, Ludo, en arrivant autour de cette chapelle?
J'ai pas vu de clocher.
Ben voilà. Ben cette chapelle, en fait, elle n'est pas terminée.
On a retrouvé des plans que nous a donné Jean Pétavin, où justement, il manque ce clocher extérieur à la chapelle. Alors, il voulait un clocher sous forme un petit peu de clocher de tourmente. Un clocher extérieur qui, toujours dans la thématique de l'abri, servirait à guider les personnes en plus de son rôle religieux. Mais ce clocher n'existe pas et n'a pas été construit.
Voilà, ça c'était vraiment un gros regret de Jean Pailletavin. C'est vrai qu'il regrettait que sa chapelle n'ait pas été terminée. Il regrettait aussi parce que devant, il avait prévu un espace de messe à l'extérieur avec la représentation du mont Golgotha. Ça n'a pas été fait non plus. Donc voilà, on aimerait bien aussi, parce qu'on a une chapelle sans clocher, ça manque un peu.
Le mont Golgotha, c'est quoi ?
C'est le mont sur lequel a été crucifié le Christ. Donc il avait prévu en fait une sorte de sculpture avec le Christ et les deux larrons qui ont été crucifiés en même temps que lui.
Mais la croix que l'on voit sur la façade, donc qui est en creux dans la maçonnerie, devait être doublée devant d'une croix en bois qui aurait été la croix du Christ, et de chaque côté deux autres croix, on imagine, en bois.
On va poursuivre pour la prochaine émission sur le même lieu géographique, toujours dans le froid, toujours en hauteur, ou on va redescendre un peu dans le sud ?
Non, on va rester sur les hauteurs.
Et on va rester dans le froid.
Allez, merci, à la prochaine.
Ouh, ça pique.